Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise. Le Talk Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris.
Effectivement, troisième jour pour ce salon ici, Porte de Versailles, Franchise Expo Paris. Vous nous y retrouvez sur le stand B34C35. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est là, bien évidemment, avec notamment Valentine Puot, qui est journaliste pour l'officiel de la franchise. Bonjour Valentine.
Bonjour.
Et vous êtes avec vos invités. Aujourd'hui, on va évoquer les questions juridiques, les contrats notamment des franchisés, les conseils avant de signer un contrat en franchise, quand on va devoir devenir franchisé.
Tout à fait. Oui, bonjour à tous. Effectivement, je suis avec Olga Zakharova-Renaud, avocate associée chez BMGB et associée, avocate de franchisés et association de franchisés et membre du Collège des experts de la Fédération française de la franchise, et François-Xavier Avatar, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre, avocat spécialisé dans la franchise et la concurrence et aussi expert au sein de la Fédération française de la franchise. Et tout à l'heure, nous serons également en compagnie de Laurent Delafontaine, fondateur d'Axe Réseau, qui accompagne le développement des réseaux. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, comment décrypter un DIP quand on est candidat à la franchise? Quels sont les 5 éléments essentiels qui doivent y figurer aujourd'hui, tant pour coller à la loi que pour rassurer les porteurs de projets? Alors le micro est à vous Olga, vous qui assurez du coup la défense des franchisés.
Bonjour à tous. Le document d'information précontractuel, c'est un élément essentiel préalable à l'engagement du franchisé qui est régi par les dispositions du Code de commerce. Son contenu est régi par les dispositions du Code de commerce. Bon, pour le fun, c'est les articles L330-3R, 330-1 du Code de commerce. Et toutes les informations qui sont énumérées dans ces articles sont obligatoires. C'est un document qui est d'ordre public. Il doit être fourni par le franchisé en franchisé minimum 20 jours avant la signature du contrat. Je précise que le délai de 20 jours est un délai minimum. Il peut être supérieur si le franchisé a besoin d'approfondir, rechercher d'autres informations, se renseigner par lui-même, etc. Les informations importantes, c'est une information sur le franchiseur. Il est important de savoir avec qui on s'engage, qui sont les dirigeants de l'entreprise franchiseur, quelle est leur expérience professionnelle, les éventuels antécédents judiciaires également, qui peuvent être cachés et apparaître ensuite en cours du contrat, compromettre la confiance et entraîner les conséquences néfastes pour le réseau et l'engagement du franchisé. L'information sur le réseau, c'est une information primordiale. Il est important de savoir non seulement quelles sont les entreprises franchisées, où ils se trouvent, quel est leur nombre. Ce qui est également important de savoir, c'est la date de conclusion de leur contrat, la date de renouvellement de leur contrat et le nombre des sorties des sociétés franchisées du réseau l'année précédente la conclusion du contrat. Pourquoi? Parce que l'information sur la stabilité du réseau, sur le turnover, sur le taux de renouvellement, donne une image fidèle sur la promesse de rentabilité de ce réseau, et ça permet de savoir si les franchisés sont oui ou non heureux au sein de ce réseau. Le montant des investissements initiaux, c'est une autre information qui doit figurer dans le document d'information précontractuel. Il s'agit de tous les investissements spécifiques au concept franchisé. N'en font pas partie les frais de création de société, achat du droit au bail que n'importe quel commerçant exposerait, mais vraiment les dépenses spécifiques, agencement spécifique, les travaux, le mobilier, les droits d'entrée, toutes les dépenses qu'il faut, il faut faire avant d'ouvrir son magasin ou son point de vente. Et enfin, le projet de contrat de franchise doit être joint aux documents d'information précontractuels. Et évidemment, inutile de le dire, c'est une information juridique indispensable. Il faut bien le lire, il faut se faire accompagner dans la lecture de ce contrat. Il y a autant de contrats que de réseaux de franchise, mais on en parlera un petit peu plus tard. Certaines informations sont compliquées à comprendre. Il ne faut jamais se satisfaire d'une réponse bateau qui consiste à dire « c'est une clause de style, on ne l'applique jamais ». Toutes les clauses qui figurent dans le contrat sont susceptibles d'être mises en œuvre par les parties, et chaque partie doit pouvoir réclamer leur accomplissement. Tout ce qu'on ne comprend pas, il faut poser la question, il faut aller plus loin. Voilà, il faut être investigateur, initiateur, il faut aller voir les franchisés, se renseigner par soi-même, parce que si le franchiseur doit renseigner le futur franchisé, futur commerçant ou commerçant déjà, a aussi l'obligation de se renseigner lui-même.
Oui, alors justement, qu'est-ce que vous préconisez aux candidats pour éviter des erreurs fatales à la lecture du DIP et aussi justement pour ne pas se laisser intimider par certains franchiseurs qui sont parfois force de vente ou imprécis sur certains points ou certaines clauses? Est-ce qu'il existe en quelque sorte une recette infaillible?
La recette infaillible, c'est de bien lire, se faire accompagner et aller plus loin. Bon, j'ai omis de préciser aussi que un élément très important du DIP qui doit y figurer, c'est l'étude, enfin, c'est l'état du marché général et local des produits et services objets du contrat. La jurisprudence dit que le franchiseur doit communiquer au franchisé l'état du marché et que c'est au franchisé de l'approfondir et de faire l'étude de marché. Il faut toujours aller plus loin. Poser les questions, rencontrer les franchisés, pas seulement ceux qui sont recommandés par le franchiseur, mais ceux qui sont situés dans les villes ou les emplacements comparables à la future installation. S'il y a une association de franchisés, allez voir l'association de franchisés. Il vaut mieux prévenir des mauvaises surprises, se renseigner, s'engager en toute connaissance de cause, et c'est ça le but du DIP, que s'apercevoir ensuite qu'on s'est engagé dans un réseau sur lequel on faisait des fausses idées. Le document d'information précontractuelle sert à servir l'information pour que le candidat à la franchise puisse savoir s'il a envie de s'engager ou s'il n'a pas envie. Ce n'est pas un engagement, ce n'est pas parce que vous signez un récépissé de remise du document d'information précontractuelle que cela vous engage à signer le contrat.
Oui, bien sûr. Alors, quelles sont du coup maintenant de votre côté, François-Xavier, les obligations du franchisé vis-à-vis de son franchiseur cette fois-ci et une fois qu'il a signé, évidemment?
Alors, merci Valentine. Tout d'abord, merci pour l'invitation de l'officier de la franchise. Pour répondre à votre question, alors simplement pour ajouter sur le DIP un petit point, n'oubliez pas que si le franchiseur fournit un prévisionnel, il doit être réaliste. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je rejoins évidemment Olga sur tout ce qu'elle a dit sur le DIP. Il n'en demeure pas moins qu'une fois que vous avez signé, vous franchisé, vous avez pléthore d'obligations. Vous avez pléthore d'obligations. Les premières seront tout d'abord celles de payer quelque chose. Payer quelque chose, ça sera trois sommes. La première, c'est un droit d'entrée dans le réseau. Un droit d'entrée dans le réseau parce que vous allez rentrer dans un concept qui marche, qui est innovant, qui est un partenariat gagnant-gagnant. Et donc, il y a une somme à payer à l'entrée du réseau. Cette somme, en moyenne, elle est entre 22 500 euros et 55 000 euros. C'est une moyenne nationale. Il peut y avoir un petit peu moins ou un petit peu plus. Puis, vous aurez deux autres sommes à payer. La première, c'est une redevance forfaitaire. La moyenne en France est entre 4 et 6%. C'est une redevance qui sera la contrepartie de tout le savoir-faire qui vous sera transmis. Donc dans le savoir-faire, c'est une petite boîte à outils dans laquelle vous aurez toutes les méthodes commerciales qui ont fait le succès de la franchise. Que ce soit en termes de méthodes commerciales, méthodes administratives, assistance à l'ouverture du restaurant, formation, etc. Deuxième somme à payer, c'est la redevance de communication. Cette redevance de communication est en moyenne entre 0,7% et 1,80%. Cette somme sera la contrepartie réelle de ce que le franchiseur fait pour vous en termes de communication nationale, ce qui ne dispense pas le franchisé d'avoir une communication locale à sa charge. Donc ça, c'est la première grande obligation. Deuxième obligation très importante, évidemment, ça va être de respecter le savoir-faire du franchiseur et de respecter le caractère secret et confidentiel de ce savoir-faire. Alors ça, c'est très important parce que si demain vous ne respectez pas ce savoir-faire, que vous vous en éloignez de près ou de loin, vous serez rappelé à l'ordre immédiatement. Le but, c'est l'homogénéité du réseau et ça pourrait créer la résiliation du contrat, bien, bien malheureusement. Alors, d'autres obligations très importantes. Une obligation qui va être une obligation de loyauté contractuelle. Ça, c'est très important. Si demain vous êtes dans un réseau de burgers, souvent on va vous demander de ne pas être dans un autre réseau de burgers, naturellement, sauf avis contraire ou plutôt accord du franchiseur. Donc, ça, c'est bien important de l'assimiler.
C'est pour ne pas nuire à la concurrence.
Ne pas nuire à votre propre franchiseur. D'accord. Pour le coup, en fait. Donc, ça, c'est une obligation de loyauté contractuelle. autre obligation, qui est une obligation quand vous avez signé le contrat, mais dont l'effet sera postérieur à la résiliation du contrat. C'est une obligation de non-concurrence post-contractuelle. Alors, cette obligation est très contraignante pour le franchisé, je l'entends bien, mais le but, encore une fois, ça sera de garder l'homogénéité du réseau, de garder le caractère secret de ce réseau. Et les clauses de non-concurrence seront limitées sur un an, limitées dans l'espace et proportionnelles au savoir-faire. Voilà les grandes obligations du franchisé. Alors, il y en aurait encore pléthore d'autres, mais là, on a donné les grandes lignes.
Très bien. Eh bien, écoutez, merci à tous les deux pour cet échange.
Merci à vous.
On passe maintenant à la partie savoir-faire. Parlons maintenant de la transmission et de la formation en franchise. Avec vous, Laurent de La Fontaine, quelles sont un petit peu les grandes lignes? À quoi est-ce que cette formation va servir et comment les candidats vont pouvoir en bénéficier selon, évidemment, les différents réseaux et les différents secteurs d'activité? Donc, parlons maintenant des basiques.
Alors, comme mes prédécesseurs l'ont dit, la franchise, c'est une marque. C'est la réitération du pilote probant, c'est l'assistance continue et c'est le savoir-faire. Et en fait, ce qui fait la différence entre une simple licence de marque et la franchise, c'est le savoir-faire. Très difficile à définir, c'est quoi un savoir-faire? Par exemple, dans la restauration, ça va être une plateforme, une centrale d'achat, un web marketeur, des fiches techniques, une sorte d'éléments qui, pris isolés ou en regroupement, vont permettre à l'indépendant d'être plus puissant, plus performant que s'il était seul. La notion de savoir-faire, juridiquement, elle est très, très difficile à définir. Et c'est un peu ce qui fait la force de la franchise. Donc, c'est bien d'avoir un savoir-faire, mais ce savoir-faire, si on le garde pour soi, il ne sert à rien. Donc, le franchiseur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre en place différentes unités qui vont permettre de transférer le savoir-faire existant au réseau de franchisés. Dans l'assistance et cette transmission de savoir-faire, on va trouver quoi? La formation initiale, l'accompagnement au démarrage et la formation continue. La formation initiale, c'est très simple, c'est l'ensemble des éléments qui vont permettre à un candidat d'utiliser ce savoir-faire chez lui, comme il l'a appris chez le franchiseur. Donc la formation, elle est théorique et pratique. Si on prend toujours l'exemple de la restauration, on va mettre en place un programme de formation sur la transformation de la matière première en recette, puis ensuite en plat servi au client. On peut aussi avoir une formation sur la vente additionnelle, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'on vende plus de café pour arrondir le chiffre d'affaires. Ces formations sont souvent assez corollaires à l'existant du savoir-faire. C'est-à-dire que si vous avez une formation très courte, vous ne vous étonnez pas s'il y a peu de savoir-faire. Par exemple, les vêtements. Dans tout ce qui est textile, la formation est très rapide. Pourquoi? Parce que dans le textile, on va mettre en place une collection sur des cintres en boutique. Certes, il y a du merchandising, il y a plein d'autres choses, mais c'est plus rapide que dans un secteur où il y aurait de la technicité, comme par exemple la pose de fenêtre. Donc plus le savoir-faire il est léger, plus la formation sera légère. Et plus la formation, évidemment, est lourde, plus le savoir-faire est technique. Je viens de vous citer la pose de fenêtre, c'est évident, puisqu'il y a toute la partie prise de mesure, toute la partie ensuite pose de la maison, des fenêtres. Si vous prenez l'habitat, ce sont souvent des secteurs très, très techniques. La maison individuelle, vous avez 22 corps d'État qui vont agir pour construire une maison. Donc la formation sera évidemment un peu plus longue. Donc ça, c'est la formation initiale, théorique et pratique, qui va permettre en fait de transmettre localement, dans les centres pilotes du franchiseur, ce savoir-faire. Et puis ensuite, vous avez l'accompagnement au démarrage, c'est-à-dire que le franchiseur, par l'envoi d'équipes spécifiques à l'ouverture du point de vente, va accompagner le franchisé localement pour qu'il puisse utiliser de manière efficace et performante ponctuellement au moment de l'ouverture le savoir-faire. Cet accompagnement, il va varier. Il peut être de un jour, comme il peut être de un mois. Là encore, ça dépend de la difficulté du secteur d'activité. Il va être plus long sur les secteurs qui vont être comme la restauration, l'habitat, l'hôtellerie. Cet accompagnement, évidemment, il va être, on va dire, complété d'un compte rendu d'ouverture. C'est-à-dire qu'un bon franchiseur va faire en sorte, que ce soit sur la formation initiale comme sur l'accompagnement, de valider la présence du franchiseur aux côtés du franchisé. C'est important, ça. Et puis enfin, le savoir-faire, il vit dans le temps. Il vit, c'est-à-dire que...
Avec les évolutions du réseau, du coup...
Exactement. L'apparition d'Internet, le digital, demain l'intelligence artificielle. Tous ces éléments faits font que le savoir-faire doit vivre. Le franchisé doit évidemment suivre cette évolution. Donc le franchiseur va mettre en place une évolution du savoir-faire continu, sinon sa franchise ne vaudra pas grand-chose, ça en est évident. et le franchisé va devoir absorber cette évolution. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc la formation continue, si je prends par exemple Hippopotamus, pour vous citer une marque, auparavant, ils avaient des grilles, enfin, ils avaient des fours qui étaient tout à fait classiques. Ils sont passés sur des fours américains à très forte température, plus de 700 watts. Il a fallu reformer le réseau à l'utilisation de ces fours pour ne pas brûler la viande. C'est une formation continue. De la même façon, vous pouvez aussi avoir une formation continue. On va parler de facultative. Parce que là, c'est ce que je voulais te citer.
Oui, justement, il existe effectivement des modules complémentaires. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner ces modules complémentaires pour les futurs chefs d'entreprise?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de formation qui va être obligatoire, ce qui va permettre d'exercer le métier, ce que j'ai cité précédemment. Et puis, on peut en parler aussi de formation complémentaire. Mais la formation complémentaire peut être la même que celle obligatoire. Je m'explique. Vous formez un manager, très bien, il est formé. Mais 3 mois après, il s'en va. On va avoir un nouveau manager. Là, le franchiseur, dans la plupart du temps, va faire payer cette nouvelle formation. Sinon, il passerait son temps à former les gens, quoi. Donc, on va avoir, d'une part, cette formation qui va être obligatoire, liée au secteur d'activité. Et puis, vous avez des modules qui vont être, en fonction de la franchise, complémentaires. Dans le service à la personne, par exemple, vous allez avoir une aide, je crois, psychologique. C'est-à-dire qu'on a des formations
d'aide. Gestion du stress.
Gestion du stress, parce qu'on accompagne des personnes âgées, souvent jusqu'au dernier jour, etc. Donc, c'est très compliqué. Et donc, le franchiseur met en place des formations sur, on va dire, la gestion de son stress, la gestion de l'humain, au sens large. Si je change totalement d'univers, on va aller dans le vin, on va avoir une formation sur les accords mets et vins. Si on est dans l'hôtellerie, comment faire le check-in de manière la plus efficace, etc., etc. Donc on a un catalogue de formation continue où le franchisé peut puiser, un peu comme tout un chacun dans son entreprise peut faire la formation diplômante, il pourra aller chercher une formation pour lui ou un membre de son équipe.
Mmh. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec les autres contrats, comme par exemple la licence de marque, où il n'y a pas ce savoir-faire, du coup.
Oui, oui. Alors il n'y a pas de savoir-faire en licence de marque, mais il ne faut pas se leurrer aujourd'hui en franchise. Il y a pas mal de pseudo-licences de marque, qui sont un peu le Canada Dry de la franchise, où on va déguiser la notion de savoir-faire sur un guide d'usage de la marque. Pas mal d'avocats mettent ça en place. Si vous voyez licence de marque pour la restauration, alors que normalement, plutôt la franchise, vous étonnez pas, mais au lieu d'avoir un manuel opératoire du savoir-faire, vous aurez souvent un manuel opératoire d'utilisation de la marque. C'est un subterfuge pour ne pas être en franchise.
Très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup. Effectivement, la formation continue est essentielle pour pouvoir performer tout au long de son contrat, voire mener les candidats à la pluri ou à la multifranchise, ce qui n'est d'ailleurs pas proposé aux chefs d'entreprise indépendants quand ils se lancent à leur compte. Merci à tous les trois pour cet échange et puis bon salon.
Merci.
Merci. Merci bien. Valentine, et nous on va se retrouver dans un instant avec nos premiers invités pour cette nouvelle journée, 3e journée de ce salon Franchise Expo Paris, en direct donc porte de Versailles. Nous sommes sur le stand B34C35, à tout de suite avec nos invités.
Franchise, Attaque Franchise. Toute l'équipe de l'officiel de la franchise est en direct du salon Franchise Expo Paris. Ce rendez-vous vous est proposé en partenariat avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise.